Autre radio, autre culture, bonsoir. Émission également diffusée sur audiopeople.fr. Nous revoilà en compagnie pour cette deuxième partie de Yvan Cassar avec Christophe Bouillot. Bonsoir à tous les deux. Quand vous enregistrez dans un studio, est-ce que vous êtes difficile dans le choix de l'instrument? Est-ce que vous choisissez votre studio par rapport au type de piano qui...
Oui, je choisis pas le studio forcément. Quand j'ai des besoins pour un piano classique de très haute volée, bah, voilà, si je veux un très beau son, oui, évidemment. Je choisis le studio en fonction du projet et l'acoustique en fonction du rêve que j'ai dans la tête. Ça, c'est sûr. Bon, en France, de toute manière, on est quand même extrêmement limité, comme ça, le problème, il est réglé assez vite, mais je suis assez fidèle à des studios que je connais très bien, que j'aime pour des raisons différentes. J'ai beaucoup travaillé à Méga. Historiquement, au début de ma carrière, j'ai fait beaucoup de choses à ce Méga, Port de la Mette, qui est devenu le Méga sur Rennes, puis maintenant le studio Méga, qui est un studio que j'aime beaucoup, avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'amis. Mais j'aime évidemment beaucoup Davout parce que on peut mettre beaucoup de gens, séparer plusieurs personnes dans des petites cabines, et on a une vraie grande pièce centrale pour enregistrer un orchestre ou des percussions. Voilà, c'est une pièce qui a une caractéristique assez sympathique, voilà. Et puis j'aime beaucoup Ferber aussi, pour citer les trois studios où je pense que je travaillais le plus, qui est une pièce beaucoup plus mat. Voilà. Donc j'ai aimé faire Nougaro à Ferber parce que c'était super dry, mat, et que pour faire un son à la Rudy Van Gelder des années 60, bien bien pur, j'ai adoré. J'ai fait les albums de Roberto à Davout parce que justement on peut être 10 musiciens en live plus un orchestre, et voilà, j'ai fait beaucoup de choses avec Aznavour aussi à Davout. C'est un studio qui se prête vraiment à j'allais dire aux séances à l'ancienne, malheureusement qui vont devenir de plus en plus rares, mais ça c'est vraiment formidable d'être tous 5 musiciens dans des pièces, le chanteur dans une pièce, l'orchestre au milieu. Ça c'est des moments divins dans une vie de réalisateur et d'arrangeur. Donc j'ai eu la chance de le faire pas mal. Et puis j'aime aussi beaucoup le studio Méga parce que c'est un studio qui a une pièce qui peut être très intéressante, et puis des possibilités techniques pour mixer, un confort vraiment qui est très agréable. Donc pour citer les trois qui me viennent comme ça, donc le plus important, je crois que c'est vraiment d'avoir une idée précise du son et du rêve par rapport à l'artiste, quelle esthétique, et choisir le studio en fonction de l'esthétique. Ça me semble primordial. J'ai fait l'album de blues dans un très vieux studio à Los Angeles avec une console d'un autre âge, et c'est vrai que ces spécificités et ce luxe, je dois dire, je le trouve vraiment très 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 inspirant. Et très créatif. Je pense qu'aussi une des difficultés quand on fait mon métier, c'est de pas faire les mêmes albums. Et donc je pense que de changer les lieux, de changer quelques personnes, aller vraiment dans l'endroit qui correspond le mieux à votre envie, ça vous oblige à penser autrement. Vous êtes dans un lieu que vous le connaissiez ou pas d'ailleurs. Entre les surprises et entre les acoustiques, les musiciens, les ingénieurs du son, voilà, vous arrivez. Je pense que j'ai fait pas mal d'albums et qui se ressemble pas trop, justement aussi pour ça, parce que même si on peut toujours calfeutrer, arranger une acoustique, amener du matériel, on peut faire tout ce qu'on veut, mais une acoustique naturelle qui correspond véritablement à l'esthétique que vous avez choisi, c'est un plus vraiment indéniable. Et je ne fais pas trop partie des gens qui enregistrent en se disant bon, ça ira et puis on verra au mix. Ça, c'est quelque chose qui ne fait pas du tout partie de ma religion.
Vous avez travaillé pour des musiques de films?
Un petit peu.
Mmh. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de la politique d'enregistrer à l'étranger, et surtout en Europe de l'Est?
Mais...
Je parle de ça parce que vous êtes aussi musicien, donc ça vous concerne.
Non, mais je peux vous dire ça assez facilement, dans le sens où je suis connu dans ce métier pour être la personne qui résiste à ça, parce que j'estime que l'équipe de les orchestres qu'on a en France et l'équipe que avec laquelle j'enregistre est hautement performante, d'une grande qualité, et donc c'est très dur pour moi d'aller Autre part, on me l'a beaucoup demandé dans ma vie d'arrangeur. Et j'ai presque tout le temps, non pas refusé, mais argumenté pour essayer de convaincre les gens qu'il fallait mieux rester ici. Il faut s'ouvrir, je veux dire, c'est normal d'aller enregistrer ailleurs de temps en temps. Ce qu'on disait tout à l'heure pour les musiciens pop ou rock, c'est valable pour les musiciens classiques. Il ne faut pas s'interdire de nos jours d'aller enregistrer un peu de temps en temps là, dans un endroit ou dans un autre. Je trouve que ça serait... non, bien sûr que non. Au contraire, c'est bien aussi justement d'aller voir d'autres cultures et d'autres gens. Mais... le systématisme juste à fin économique est quelque chose que j'ai du mal à supporter, dans la mesure où j'estime que le résultat, d'abord, le résultat est moins bon que ce qu'on ferait ici. Moi, ce qui m'importe, égoïstement, ce qui m'importe, c'est d'abord que la qualité soit là. Et c'est vrai que les pièces les studios d'Europe de l'Est ne sont pas, sont toujours un peu secs. Il n'y a pas beaucoup de très belles salles. Il y a quelques temps, c'est vrai que c'était moins développé. Maintenant, évidemment, c'est devenu une industrie, même dans les pays de l'Est. Donc, c'est vrai qu'à Budapest, par exemple, à Sofia, il y a une assez belle pièce. Je suis allé à Prague au début. J'étais allé à Prague. Je ne vais pas dire que c'est inaudible, bien sûr que non, mais je trouve ça moins bien que ce qu'on fait ici. Et j'ai envie de défendre et la qualité et mes amis musiciens français qui livrent quelque chose de très beau sur la bande. Maintenant, on est tous, vous savez, la mondialisation, c'est comme ça. Donc, je vais vous faire rire en disant que je me rappelle de la dernière fois où j'étais allé à Prague, non pas pour enregistrer, mais parce que la deuxième partie d'une tournée que j'avais fait avec Florent Pagny, qui était un spectacle classique tiré du 10 baryton qu'on avait fait ensemble, on avait fait une partie avec justement mon équipe française, et puis économiquement, c'était vraiment pas possible de faire avec la même équipe sur la tournée. Donc, on avait fait ça avec l'orchestre de Prague. Ça s'était très bien passé, et je discutais avec les responsables de l'orchestre, et ils me disaient qu'eux-mêmes, maintenant, ils avaient très peur et qu'ils étaient aussi obligés de baisser leurs tarifs parce qu'à côté, la Macédoine arrivait. Et donc, après, la Macédoine va baisser parce qu'à côté, je ne sais quel autre quartier va proposer. Voilà, on trouve toujours moins cher, on trouve toujours... c'est assez compliqué, finalement. Voilà. Et donc, j'essaye, moi, je ne donne pas de leçons, j'essaye juste de faire le maximum de choses avec mes amis français et d'enregistrer en France. J'ai juste un regret terrible, c'est que qui m'oblige de temps en temps à enregistrer à Londres pour l'orchestre, parce que malheureusement, vu le manque de culture historique française sur l'orchestre, sur l'enregistrement, sur le beau son, et le manque de marché, et aussi d'ailleurs, bien évidemment, ce goût d'aller voir ailleurs, on n'a malheureusement pas un seul studio de très haute qualité à Paris pour enregistrer l'orchestre. C'est un drame absolu pour tous les musiciens, tous les orchestres, et pour nous. C'est vraiment... C'est très handicapant, parce que malheureusement, dans un enregistrement, le son de l'orchestre, c'est moitié la qualité de l'orchestre et moitié la qualité de la salle. Et donc ça, c'est beaucoup de fois, j'ai essayé de voir comment pouvoir régler ce problème. Qui pourrait faire un très beau studio pour enregistrer? Et c'est vrai qu'on est plutôt malheureusement, dans le marasme qu'on connaît pour l'industrie du disque, plutôt dans une période où même les moyens grands qui sont là ont du mal à exister et à rester là. Et on s'inquiète pour la survie de Guillaume Tell, de Davou, qui sont les seuls où on puisse enregistrer encore un peu de musique symphonique. Que ferons-nous quand ils ne seront plus là? Oui, on ira à l'étranger. Mais c'est quand même rageant d'être obligé d'aller à l'étranger parce que la pièce est bonne. Et je le dis, j'aime beaucoup les orchestres anglais parce qu'ils proposent une qualité assez comparable aux orchestres français, avec des qualités, avec des défauts... Sur certains pupitres, moi, je suis un amoureux absolu des bois français, donc l'école des vents dans notre pays est exceptionnelle. Donc j'ai toujours un peu de regret, mais je me dis, je suis obligé d'aller là-bas parce que pour un orchestre de 80-90 personnes, pour de la très grosse musique symphonique, un très gros effectif, et ben malheureusement, on peut pas faire ça en France. Et donc c'est dément, rageant. J'ai même essayé de trouver des solutions pour trouver des salles de concert, pour amener un studio. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour faire une séance avec des musiciens, il faut transporter 90 personnes, un studio d'enregistrement. Et voilà, et donc dans les conditions économiques actuelles, c'est malheureusement impossible. J'ai essayé d'y penser, d'organiser ça, et je me rends compte que malheureusement, c'est trop dur. Mais c'est quand même très, très, très rageant.
Alors c'est amusant parce que nous avons eu des réunions de travail justement sur la musique de film et le problème de la musique de film en France, cette espèce d'exportation vers les pays de l'Est. Et nous avons donc eu ici Franck Galli qui est musicien à l'Opéra de Paris, ainsi que Gilles Tiner qui est l'ancien président de la commission de la Société des compositeurs de musique de film. Il s'interrogeait sur le fait que ces grands studios ne prévoient pas justement d'avoir une régie qui se déplace pour aller dans des salles où l'on puisse enregistrer, qui soient excellentes en acoustique.
Oui, mais c'est sûr que c'est rageant. Mais quoi qu'il arrive, entre le prix des salles, parce que je me suis renseigné, croyez-moi, c'est un sujet qui est au cœur de mes préoccupations, surtout que la musique que j'écris est en grande partie symphonique. Mais entre quoi qu'il arrive, même avec un studio, parce que vous savez, maintenant, la technologie a tellement progressé que pour enregistrer de l'orchestre, finalement, il faut une vingtaine de micros et on peut faire ça avec deux gros Mac, un Pro Tools. On n'a pas besoin d'un énorme studio, en fait. On a besoin d'une sublime pièce, mais bon, c'est quand même du travail et des choses évidemment à organiser. Mais j'y réfléchis pas mal avec des amis musiciens ou évidemment ingénieurs du son. J'ai eu pas mal de fois cette discussion avec Stéphane Richard, par exemple, qui est un ingénieur qui enregistre... Stéphane qui enregistre très bien l'orchestre et qui a beaucoup de matériel aussi, parce que pour lui, par exemple, c'est encore pire que pour moi, parce que lui, c'est lui qui enregistre, donc c'est à lui qu'on dit, bah dis donc, ça sonne pas. Donc c'est d'une cruauté absolue, alors qu'il y est pour rien. Mais après, pour m'être vraiment renseigné, on est aussi face à des gens qui ont ce que je dis pour les studios d'enregistrement est valable aussi pour les salles symphoniques en France. Ne croyons pas qu'on ait comme ça ne serait-ce que 10 salles exceptionnelles en France. C'est totalement faux. On en a très peu. Je ne vais pas citer, je ne veux pas me mettre tout le monde à dos, mais enfin, on a très peu. Très, très peu. Et du coup, le problème de ces salles qui sonnent extrêmement bien, c'est que non seulement elles sont évidemment très, très prises, donc quand vous voulez enregistrer la musique de film, on est nous aussi dans le marché, entre la musique de film ou la production, on est dans une échelle de temps qui n'est pas du tout la même que les salles subventionnées ou les maisons de la culture ou les opéras ou ne serait-ce que la maison de la radio. Bon courage pour aller enregistrer quelque chose dans un grand studio de Radio France, malheureusement, parce que les plannings sont fous et que c'est, toutes ces salles sont prises en permanence, elles sont prises d'assaut. Donc nous qui arrivons avec des marges de 3 mois, 4 mois, 5 mois d'organisation au maximum, quand on a 6 mois d'avance dans ce métier, c'est qu'on est vraiment très organisé. On n'a pas, comme dans le classique ou comme dans les programmations, un an, deux ans d'avance sur nos plannings. Donc, on se retrouve face à des salles qui sont souvent prises et quand il faut les louer avec les lourdeurs de l'administration, elles sont tellement chères à la journée qu'elles sont trois, je le sais, puisque je prépare un projet, donc j'ai essayé aussi de travailler dans ce sens-là, parce que je voulais aussi être fidèle à mes musiciens français. Et on est à des prix quotidiens, hors l'installation d'un studio, qui sont deux, trois fois le prix d'un studio, du plus beau studio au monde, c'est-à-dire Abbey Road. Donc, il y a un moment, vous êtes obligé de vous confronter à la réalité économique, et en se disant, je ne pourrais pas le faire, parce que je n'en ai pas les moyens. Et qu'on n'est pas, dans une
c'est
époque...
C'est paradoxal, voilà. Parce qu'on se retrouve devant des salles où il y en a qui ne marchent pas parce qu'elles sont très très chères et donc n'arrivent plus à trouver les gens pour ça. Et d'un autre côté, vous êtes toujours à la recherche de salles. Voilà. Je vois par exemple l'Auditorium Saint-Germain qui est quand même réputé pour son acoustique, qui est peut-être une des meilleures salles sur Paris. On a privilégié, la mairie de Paris a privilégié cet Auditorium Saint-Germain pour des concerts amateurs.
Oui, et en même temps, vous voyez, là, c'est amusant que vous me parliez de l'Auditorium Saint-Germain, parce que j'y étais il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a une personne qui organise un festival sur l'improvisation qui vient de naître, qui est très intéressant. C'était la première édition, et donc je suis allé, effectivement, c'est un très joli auditorium, mais il y a, évidemment, il faut le temps que ce festival trouve son public, mais il y avait assez peu de gens, et je me disais que, ne serait-ce que pour trouver cet auditorium, juste quand on ne sait pas où il se trouve, et on est devant le marché Saint-Germain, et en fait, pendant 20 minutes, on essaye de trouver l'entrée. Alors, j'ai pensé à ça, je me suis posé ces questions, je me suis dit quand même, vraiment, c'est quand même insensé. C'est-à-dire que de même pas savoir qu'une salle est là, une salle de qualité, et de savoir comment y rentrer. Donc, ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est bien représentatif du travail qu'il y a à faire dans notre pays. Mais, parce que je pense que, profondément, il y a un énorme effort à faire au niveau du développement de la musique et la conscience que la musique est importante pour nous, parce qu'on est un pays littéraire, mais on a du mal avec la musique, et il faudrait qu'on prenne conscience et que c'est très important et qu'il y a un gros travail de développement à faire, parce que c'est vrai que ce que je dis pour les studios est valable pour les orchestres, est valable pour les salles, voilà, il y a malheureusement ça va avec, on est à Paris et on va peut-être enfin avoir une salle philharmonique de qualité. Enfin, je veux dire, quand même, on est dans une des grandes capitales du monde et on a du mal à aller écouter un orchestre dans de bonnes conditions acoustiques. C'est quand même insensé. Enfin, je veux dire, quelle est l'autre capitale mondiale où on a ce problème? Non, sûrement pas à Londres, sûrement pas à Vienne, sûrement pas à New York, sûrement pas à Los Angeles, sûrement pas. Voilà, donc il y a un moment, c'est très étrange. Et du coup, le peu de salles qui acceptent et qui peuvent, convenir, elles sont prises d'assaut. Puis c'est très très compliqué et c'est très très cher. Et voilà, donc pour nous, pauvres musiciens, essayer de faire exister la musique symphonique, c'est assez compliqué. Donc je comprends aussi que malheureusement les gens soient obligés d'aller partir ailleurs pour enregistrer, parce que c'est difficile de trouver des solutions faciles, artistiquement très belles, pour du gros orchestre. Voilà, donc on fait avec, mais c'est un petit peu dommage quand même. Enfin, moi, ça me désole profondément, parce que j'aimerais tant faire les choses avec les gens qui sont avec lesquels je travaille. Je peux pas faire grand chose. Et puis, c'est vrai que pour la musique, pour revenir à la musique de film, rapidement, il faut aussi que les producteurs prennent conscience que travailler, faire une musique de film de qualité et avec un orchestre pour avoir une bande son, une belle bande son, ça demande aussi un certain investissement. Et quand on en vient aussi à la, c'est ce qui au début m'a fait choisir aussi la chanson finalement malgré moi, parce que je me suis rendu compte que pour travailler avec l'orchestre en faisant de la musique de film dans notre pays, finalement c'était très difficile, parce qu'on vous donne très peu souvent les moyens d'avoir un orchestre. Dans le financement logique, la musique arrive un peu à la fin au cinéma, donc il y a souvent pas, la musique fait les frais de tous les dépassements du film. Il faut trouver des solutions qui soient économiquement viables d'une manière indépendante avec des éditeurs, tout ça. C'est pas facile. Il y a plein de gens, et il y a des gens, il y a une vraie volonté quand même qui s'installe dans le pays. Je sens quand même depuis 20 ans, les choses ont vraiment changé, parce que la culture des réalisateurs a changé. Tout le monde a compris que c'était quand même important, la musique à l'image. Mais il y a encore de gros soucis de financement, et donc du coup, finalement, on fait beaucoup de choses assez simples, ou alors, voilà, on va à l'étranger parce qu'on n'a pas l'argent, tout simplement, pour le compositeur, le producteur n'a pas l'argent pour faire la BO avec un orchestre de qualité dans une salle de qualité. Et c'est malgré tout très dommageable.
Alors, je voulais aussi parler d'une chose qui vous est arrivée, c'est votre participation à la Starac, la Star Academy, en tant que jury.
Oui.
C'est ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté et que pensez-vous à chaque fois des choix du public sur les artistes présentés, enfin sur ces jeunes débutants?
Vous voulez dire
débutants.
Les choix du public de ceux qui ont gagné?
Pas spécialement dans le courant de l'émission, ceux auxquels vous pensiez qu'ils allaient aller jusqu'au bout.
Moi, il y a deux choses par rapport à cette émission. Il y a deux choses. La première chose, je ne vous étonnerai pas en disant que j'ai beaucoup hésité avant de la faire,
ouais.
Et j'ai fini par le faire en me disant que ça serait pour moi une bonne manière d'aller plus loin pour vaincre aussi des démons. Je trouvais ça très intéressant de s'exposer et j'ai adoré... Je dis souvent, j'ai adoré les progrès que j'ai faits pendant ces 3 mois, parce que non seulement j'ai d'abord accepté ça par amitié et parce que j'avais envie de le faire avec Pascal Nec, qui est une personne qui est déterminante dans mon cursus. C'est quelqu'un qui m'a toujours fait confiance, qui m'a proposé énormément de projets. Ça fait 15 ans que je travaille beaucoup avec Universal et que Pascal me soutient auprès des chanteurs. Enfin, je veux dire, c'est toujours une oreille amie et voilà, je crois qu'il apprécie mon travail. C'était très important pour moi qu'il soit là. Et d'ailleurs, ça a été vraiment une période vraiment délicieuse. Et je me disais que d'affronter un peu tout ça, des caméras, parler, aller partager ou finalement aussi un peu faire parler un petit peu d'expertise dans ce monde où finalement tout ça est un peu superficiel, tout ça ne compte pas. Je trouvais que ça pouvait se tenter. Voilà, j'ai beaucoup hésité parce que je voulais pas qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Et puis, j'avais pas vraiment besoin de gagner ma vie pendant ces 3 mois. J'avais assez d'albums et de travail avec les chanteurs. Donc, c'était pas du tout un intérêt ni financier. C'était vraiment cette aventure avec Pascal, les gens de TF1 qui étaient extrêmement ouverts à ma participation et qui je les sentais vraiment. Voilà, très amicaux. Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal d'interviews comme ça. On m'a toujours demandé alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on vous dit quoi? Est-ce quoi? Comment voter? Quoi, etc. Espèce d'idée qu'on a de ce building et des gens qui sont à la tête. Et moi, pas une seule fois en 3 mois, on m'a dit comment voter, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment parler. Voilà. Et donc, une des choses importantes aussi par rapport à la Nouvelle Star, par exemple, pour moi, c'était que c'était en direct et que donc, on ne pouvait pas travestir ce que j'allais dire, faire de moi un personnage. Autre que ce que j'étais, voilà, et à l'arrivée, je suis extrêmement content parce que je trouve que j'ai progressé dans la manière de parler, de m'ouvrir aux gens, de vaincre une espèce de timidité. Moi, je suis qu'un arrangeur réalisateur ou je suis un pianiste, donc je me cache derrière mon piano toute la journée et en concert, pareil, je suis toujours derrière un instrument. Là, j'étais devant, il fallait que je parle, il fallait que je juge. C'est un autre métier pour moi et j'ai beaucoup appris et j'en ai vu les bienfaits d'ailleurs dans les scènes que j'ai faites après où j'arrivais, où ça m'arrivait de dialoguer avec le chanteur, d'exister un peu autrement, de franchir une barrière, tout simplement, d'exister, mais sans l'instrument. Et donc, du coup, de ce côté-là, c'est une très belle expérience. Quant au choix, moi j'ai tendance à dire qu'on fait un métier extrêmement particulier. Moi quand je jugeais, je donnais mon avis, j'ai toujours essayé de rester à ma place, c'est-à-dire je jugeais ce que j'entendais. Mmh. Voilà. Bien, pas bien, pourquoi, voilà, c'est tout. Je cherchais pas ni à faire le show, ni à faire l'intéressant, ni à aller... simplement, j'essayais de donner un éclairage de ce que moi, je vis au quotidien, ce qui est mon expérience, mon aptitude à, finalement, à écouter un chanteur et à l'aider, tout simplement. Donc, je me disais que je pouvais un peu aider ces gens-là, donner quelques... essayer de dire des choses, j'espère, le plus juste possible. Après, ce n'est que mon avis. Mais sur le choix des gens, que ce soit pour les albums que je peux faire, réaliser le travail des chanteurs, ces élèves-là, vous savez, on fait n'importe qui avec qui je travaille, mon banquier peut me dire, écoutez, j'ai écouté votre disque, je trouve ça nul. Hein. Moi, je lui dis pas, votre banque, c'est nul. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je vais chez mon épicier, il va me dire, c'est pas bien, ça m'a ennuyé cette fois-ci. Peu importe, la spécificité de notre travail, c'est que justement, on essaye d'apporter des choses aux gens et ils reçoivent ces choses-là avec leur envie, leur goût. Donc, il faut être très ouvert. Ça vous force à être très ouvert. Donc, la vérité, elle est nulle part. Et tous les chanteurs avec vous qui vous, par définition, pour ainsi dire, avec lesquels vous travaillez, n'aiment pas l'autre chanteur avec lequel vous travaillez. C'est normal. C'est comme ça, parce que quand on est chanteur, on existe, et donc l'autre, on comprend pas l'univers de l'autre. Enfin, en tout cas, on a du mal, en tout cas, à adhérer totalement. Finalement, on est dans un métier où on est jugé sans cesse par nos pairs et par le public. Quand on travaille avec les chanteurs, même entre nous, les chanteurs ou les musiciens, j'aime pas, j'aime, voilà. Donc, le public, c'est une vraie, c'est une vérité aussi, et il faut l'accepter. Et bien sûr que je peux ne pas avoir le même goût, et je sais aussi quand on va dans le sens, des gens, ou quand on cherche quelque chose qui est peut-être un peu plus exigeant, où on va forcément avoir un petit peu plus de mal à aller directement toucher les gens. J'ai conscience de ça quand je travaillais avec Claude Nougaro. Je savais quelle part dans la musique il nous fallait être clair pour pouvoir toucher le plus grand nombre de gens qui sont pas spécialement passionnés par le jazz ou spécialement passionnés par ça. C'est une musique qui est un peu plus exigeante, donc comment faire pour que la ligne soit pure et claire de manière à toucher les gens, même qui aiment pas je trouve que c'est une des choses passionnantes dans mon métier, justement parce que j'aime beaucoup de musique, essayer de faire comprendre et de faire aimer un maximum de gens des musiques que spontanément ils n'aimeraient pas. Donc pour une émission de télé, c'est pareil, il y a des gens j'ai été déçu, par exemple, j'étais dans ma catégorie, dans ma promotion là, sur cette année de la Starac, il y avait Maureen qui chantait extrêmement bien. J'étais déçu qu'elle s'en aille, parce que pour moi, j'étais content d'avoir une chanteuse assez exceptionnelle. C'est une fille qui avait vraiment une voix incroyable. Donc le jour où elle est partie, j'étais déçu parce que je trouvais que voilà, il y avait quelque chose à défendre avec cette chanteuse. Et voilà. Maintenant, moi, j'essayais de donner mon avis, et puis je voyais que selon les critères. Des chanteurs qui sont arrivés au bout et que voilà, et je donnais mon avis d'ailleurs, si je trouvais ça moyen, je trouvais ça, quand ils chantaient moyen, je trouvais ça moyen, et ça n'empêche pas de donner son avis, ça n'empêche pas de s'exprimer, puis les gens choisissent. Mais les gens choisissent, que ça soit sur une émission de télévision, l'achat d'un disque, l'achat d'une place de concert, tout le monde choisit tout le temps. Donc le public choisit, donc c'est la base de notre métier.
Christophe, as-tu des questions à poser ?
Oui, rapidement. En parlant d'achat de disques, quelle est ta position, si tant est que tu en aies une, enfin qu'on puisse la définir assez rapidement, sur l'effondrement du marché du disque ? Est-ce que c'est dû au piratage et uniquement au piratage ? Est-ce que c'est dû, comme l'ont dit plusieurs personnes qu'on a reçues ici, aussi à une baisse globale du niveau de la production, c'est-à-dire de ce qu'on donne aux gens ? Est-ce que c'est dû au disque trop cher ?
C'est compliqué, mais je pense qu'il y a... C'est un mélange de choses. Il est évident qu'il y a des problèmes économique, le téléchargement évidemment, mais on est dans une vraie période de transformation, et je pense que moi je suis pas du tout alors que je vais sortir un disque dans un an, je suis pas défaitiste. Je pense que oui, pendant les quelques années à venir, ça va être difficile parce que à tout bouleversement technologique, il faut une adaptation. C'est vrai que là on est à un tournant, sûrement que le disque n'existera plus en tant que tel et qu'il va être remplacé. Le téléchargement, c'est bien, ça fait pas rêver de la même manière, même si on télécharge numériquement pour le faire très souvent, pour en achetant de la musique comme ça, moi le premier, j'achète de la musique en digital. Sur la production, c'est vrai que tout s'est tellement standardisé, c'est tellement difficile, mais aussi je pense qu'il faut pas rendre les artistes ou les maisons de disques responsables. C'est un problème qui est multiple, et on voit la difficulté pour un artiste d'exister quand il fait quelque chose d'un peu différemment dans les médias. Les gens sont pas ouverts, donc c'est très difficile pour les maisons de disques. On est dans un espace-temps qui est très différent. Ce que je pense aussi, c'est que la musique, elle a besoin de temps, et les artistes, ils ont besoin de temps. Donc, je crois que c'est pour moi la plus grande contradiction du marché actuel. Et c'est vrai qu'à l'heure où les maisons de disques sont toutes en bourse, la bourse, c'est exactement le contraire de ce dont on a besoin pour la production musicale. Donc, la difficulté de ce qu'il va nous falloir organiser, c'est comment quelqu'un peut exister sur une carrière, sur 10, 20 ans, progresser, comment quelqu'un peut se tromper, être moyen, et qu'une autre personne peut dire lui, il va être très bien dans deux albums. Voilà, la grande époque des maisons de disques, des directeurs artistiques qui nous ont des grands labels. Ça nous semble comme ça totalement perdu. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est ce manque, ce grand manque de professionnalisme à tous les étages, finalement, vraiment le vrai métier de ce qu'est la musique. C'est-à-dire, oui, bien sûr, faire de la musique, mais reconnaître les musiciens, travailler avec eux dans le temps, etc. Ça devient très, très difficile. Et d'un autre côté, dans ce que je vois de l'émergence, bien sûr que c'est compliqué avec l'Internet à cause du téléchargement, mais d'un autre côté, entre tous ces sites, tous ces indépendants, cette manière pour des chanteurs d'exister d'un coup et de se révéler, j'ai l'impression que c'est une autre manière de voir les choses, une autre liberté, mais qui est réelle. Et quand on voit que des gens qui font vraiment des choses très intéressantes, d'un coup vont exploser par Internet, parce que leur page MySpace va d'un coup on va reconnaître, ou quelqu'un, un indépendant, une petite boîte, va se rendre compte que ce type-là, ce chanteur a du talent, va soutenir ça. Et ce qui, moi, me navre un peu, c'est-à-dire d'un côté, c'est-à-dire, malheureusement, comme tout le monde peut avoir un studio chez soi avec trois pauvres choses digitales et que je suis un peu un dinosaure dans ma manière de voir la production parce que je fais aussi des choses très acoustiques qui demandent beaucoup de micros, des consoles de très haute qualité parce que la qualité vient aussi de là. Je reconnais que cet espace de liberté lié au progrès de la technologie fait que beaucoup de gens peuvent s'exprimer. Alors, beaucoup de mauvais peuvent s'exprimer, malheureusement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais. Mais aussi, dans ce No Man's Land, il y a aussi, comme ça, des perles et des gens qui, justement, qui réinventent un langage. Ce que je veux, c'est qu'on n'oublie pas, entre les compressions terribles et l'esthétique qui naît de ces nouveaux jouets, j'allais dire, qu'on n'oublie pas une certaine manière d'apprécier le son et de valoriser le son. Mais ce que je crois aussi humblement, c'est que, bien sûr, voilà, parce qu'il y a une esthétique un peu très compressée du son, qui est sans aucune dynamique, qui est quand même contre ce à quoi je crois, moi, qui suis un amoureux du beau. Mais de temps en temps, j'avoue être étonné par l'inventivité, par la créativité de jeunes qui, avec un petit ordinateur portable, vont faire quelque chose de tout à fait sidérant. Parce que la musique, c'est d'abord de la musique, c'est d'abord du langage, avant d'être du son, etc. Mais ce que je voudrais, c'est aussi que les jeunes qui aient une culture et le MP3 a fait quand même beaucoup de mal dans la manière de présenter le son. Et quand je vois tous les jeunes, très jeunes, qui écoutent la musique comme ça, compressée n'importe comment, et qui même écoutent ça sur un baladeur, un iPod, et avec carrément une oreillette chacun, je me dis qu'on est revenu à la mono et de mauvaise qualité. Donc des fois, on se dit, c'est pas vrai. Mais en même temps, comme par hasard, les gros groupes, le langage, et les il n'y a jamais eu autant de revival de tous les groupes anciens de pop ou de rock, et voilà. Et donc aussi, je crois que avec cette culture-là, finalement, la culture du très beau, peut-être même si elle se place un peu d'une manière un petit peu comme une niche, arrive. On voit le problème. Voilà, à nouveau le grand retour du vinyle. Voilà. Et donc moi, qui suis un fan de la musique orchestrale, la musique, je me dis que en même temps qu'il y a ça, il y a aussi une niche, et il y a aussi, parce qu'on a besoin de ça. Et donc, du coup, les choses se rééquilibreront, parce que c'est une époque, et donc peut-être que les maisons de disques seront différemment, et qu'on paiera un abonnement pour recharger de la musique. Mais tout ça, c'est pas très important. Je crois que ce qui compte, c'est la créativité, et je suis pas un défaitiste. Je crois que c'est sûr que s'il faut lutter, parce que ça devient difficile économiquement, j'espère qu'on retrouvera un petit peu plus d'aisance, parce que s'il n'y a plus d'argent, si on télécharge tout, il n'y a plus de création, du coup, personne ne vous finance, donc il n'y a plus d'orchestre, il n'y a plus d'enregistrement, on est, voilà. Mais je crois que je dis 5-10 ans, on sortira de cette spirale. Et je petit aparté, parce que comme j'y travaille en ce moment pour mon projet personnel, j'ai l'impression aussi que quand on voit que le livre est encore existe et que le beau livre existe, même si c'est un petit peu des marchés de niche, parce que vendre 10 000 livres d'un très beau livre, c'est un succès en librairie. Je crois aussi le défaut de notre CD depuis le début, c'est son format. C'est tellement petit que faire un bel objet avec ça, c'est très difficile. Mais je crois que quand on essaye d'apporter aux gens un supplément, un bel objet, quelque chose qui raconte, quelque chose qui soit vraiment un plus par rapport au disque, je pense aussi qu'on peut, même si c'est dans un marché un petit peu plus privé, j'allais dire, mais je pense qu'on peut intéresser les gens et vendre aussi un petit peu plus.
Très bien, nous allons nous arrêter là. C'est passionnant. Ben oui. Passionnant. Il faudrait revenir parce qu'on a encore plein de questions à vous poser.
Mais je reviendrai avec plaisir.
Voilà. Super. Merci pour cette note optimiste de fin d'interview. Je trouve très agréable parce que je pense également la même chose. Donc, moi, là, vous m'avez parfaitement réjoui. Et ben, je vous souhaite bonne chance pour la suite.
Merci.
Beaucoup de travail, évidemment, et puis toujours une aussi belle réussite. Nous recevions donc Yvan Cassard. Je vous dis à très bientôt, Yvan.
À bientôt.
Autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.